Cela dit, c'est ce qu'on essaie de produire, mais aussi dans nos représentations, face à un public, c'est aussi de produire les conditions pour que le public s'engage dans la limite de sa fonction, pense avec nous, sente avec nous, encore une fois différemment. Il n'y a pas du tout l'illusion que. Il n'y a pas de distinction de rôle, il y a très clairement une distinction de rôle, et on ne s'attend pas, et on ne souhaite pas que le public se mette à parler, mais on essaie de créer les conditions pour que, ou ils démissionnent, c'est-à-dire ils ne se sentent pas du tout concernés par la situation, ils ne s'engagent pas dedans, ce qui arrive pour certains, ou ils s'engagent, et à ce moment-là, ils ont des liens à créer, ils ont leur expérience à composer aussi, donc ils ont à penser dans le régime. C'est-à-dire verbal, accompagner les paroles et à imaginer des liens entre ce que différentes personnes disent, mais aussi en termes de perception, ils ont des choix à faire pour s'attarder sur tel détail de ce qui se passe, une action là-bas, une texture qui met en lien avec une autre action ici ou une autre action précédente, ou à anticiper ce que ça pourrait être après. Et dans toutes les format public que nous on propose dans ce projet, y compris quand on le revendique comme une pièce, comme une performance, comme un spectacle, ça demande ce type d'engagement du public ou ça le laisse à l'écart.
Mais c'est vrai que ce qui est très différent au niveau de l'ambiance par rapport à ce qu'on disait tout au début, tout à l'heure, c'est que j'ai très bien imaginé qu'à Cerisy, on passe d'un régime langagier atelier co-construction et qu'au détour d'une phrase, on commente sur ce qui est en train de se passer, qu'on rigole un coup, etc. Et puis, et même si ces deux régimes sont généralement assez distincts et qu'on sent bien quand est-ce qu'on est en train de travailler, d'avancer ensemble, et puis les moments où on est plus dans le off, et qu'on passe allègrement de l'un à l'autre, il y a effectivement ce truc qui est là qui fait
En
vraiment
tout cas, c'est
contraste avec
quelque
ce qui se passe
chose
sur la scène.
que non, enfin, je ferai 10 minutes de présentation avant les présentations d'ateliers pour dire que, effectivement, la réussite de l'atelier fait partie du geste spéculatif. C'est-à-dire insister sur le fait que, est-ce qu'on est en train de réussir à penser ensemble, devra faire l'objet d'une attention parallèle au thème de la pensée ensemble. Et ça, c'est quelque chose que les animateurs pourront faire, introduire ce. Que ça, c'est quelque chose qu'on faisait toujours au GECO. L'idée que on pouvait dire le discours et le métadiscours
Le pas de côté, quoi.
Le pas de côté, est-ce qu'on réussit à le faire ensemble? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas contradictoire, on peut passer de l'un à l'autre, et là, effectivement, c'est quelque chose. Enfin, moi, c'est surtout pas une critique, hein, mais je crois que justement, le caractère. Qu'est-ce qu'un public? C'est quelque chose qui fabrique qui fait des différences entre les types de création.
Bien sûr.
Et c'est vrai que l'idée que le public a un choix de s'attacher à ceci ou à cela, si ça marche, c'est super important. Et je crois que ça doit marcher parce que sinon c'est insupportable. Si on ne réussit pas à s'accrocher, on doit s'ennuyer comme un poisson mort. Mais c'est vrai que par rapport aux expériences d'atelier telles qu'on le voit, ce qui fait que ça reste un public, c'est que ça restera de l'ordre du privé. Enfin, ce que vit chaque membre du public restera de l'ordre du privé, tandis que la réussite même d'un atelier, c'est que ces dimensions privées ou produits avec des répercussions sur les autres, comment dirais-je, ne prévalent surtout pas. Mais ça, c'est pas une critique, c'est simplement c'est, je crois, la différence entre une production de type artistique et une production de type philosophique. C'est qu'il n'y a pas de public en philosophie.
Oui. C'est aussi une chose que j'ai discuté. Je suis en lien avec Arnaud Alloy, qui est anthropologue et qui étudie surtout le candomblé. Enfin, il étudie la transmission religieuse, s'intéressant surtout au candomblé, notamment aux danses de transe de possession. Et donc, à plusieurs endroits, pour moi, la lecture de textes sur ces questions-là, de transe de possession, etc., m'intéresse et me parle de ma pratique. Mais il y a aussi toute cette discussion qu'on peut avoir sur le public, qui est très différente, évidemment, dans des situations de transe de possession, et un public qu'on peut avoir ici, ou évidemment dans des rituels de transe, le public qui est réuni, il est... ils savent, tout le monde sait pourquoi ils sont là pour que des êtres se manifestent à travers la danse. Quiconque dans le public peut être, en tout cas dans ce rituel-là et dans cette partie-là de cette religion, quiconque peut être possédé aussi. On sait pas quand ça va arriver, souvent c'est contagieux, quand il y a une personne qui est possédée,
oui, d'autres le seront. Là pour veiller. Et qui ne seront pas possédés.
Oui, après il y a les experts religieux qui mènent la. Effectivement, et qui sont là pour appeler.
Non, et pour prendre soin de la personne qui
tout à fait. Ouais.
Cela.
Mais c'est aussi une situation où tout le public participe et reconnaît les signes de l'imminence de la possession, et par les chants et par la danse, l'appel. Et évidemment, nous ici, on est dans une situation tout à fait différente. C'est-à-dire que.
Les gens viennent voir.
Viennent juger aussi souvent. Ce que ça peut être, cette performance, il y a plein d'attentes différentes. Certains viennent avec le souhait de voir se manifester des états particuliers chez le performeur. D'autres viennent voir avec des attentes plus de quel va être le discours de la performance, ou quel va être le thème, ou en quoi la danse va être belle, ou bon, voilà. Donc il y a des tas d'attentes, il n'y a pas de consensus sur ce que ça doit être. Dans le milieu dans lequel je travaille, il n'y a pas de consensus pour dire ça doit être ça, et tout le monde va travailler à ce que ça se passe. Et j'imagine que dans un colloque de philosophie, il y a davantage de clarté sur ce à quoi les gens s'attendent, même si manifestement vous voulez aussi déranger ces attentes, mais en même temps vous prenez le parti de formuler quelles sont les attentes. Donc à partir du moment où les gens restent, il y a un peu un contrat de on va travailler ensemble à ce que ça se passe.
Ce contrat, il n'est pas donné, hein, parce que les gens viennent en général à Cerisy pour se faire chier, à écouter et à poser quelques questions après, mais ça c'est le masochisme de l'exposé que je supporte de plus en plus mal. Donc c'est aussi pour un peu les secouer, mais il y a au moins, ils auront choisi un atelier dont le thème les intéresse. Et l'idée, c'est que chacun a une expérience, si ça les intéresse, et qu'ils ont des expériences qui peuvent être à la fois activées, mises à l'œuvre, retravaillées, etc. C'est qu'effectivement, contrairement au public d'une situation de danse, ce genre d'expérience, c'est comme si chacun était... Si, on pourrait dire, c'est comme si chacun, tout le public de truc, venait déjà en dansant. Puisque là, ils ont déjà des idées, des phrases, des énoncés, des expériences dans la tête. Et que c'est ça qu'il s'agit de faire voyager, de mettre en commun, de co-construire, etc. Tandis que dans un truc comme... dans le public au sens usuel, il y a une certaine, et ça c'est quelque chose qui est très caractéristique pour la musique occidentale par rapport aux musiques, mais pas seulement occidentale d'ailleurs, par rapport aux musiques africaines. Il n'y a pas, chez nous, il y a un public où les gens sont censés être dans leur fauteuil et participer avec la tête. Tandis que là-bas, bah, tout le monde accompagne. Il y a de la danse, tout le monde danse, se trémousse et fait du son aussi. Donc, en Afrique, l'idée qu'il y ait un public pour la musique serait stupide. Il y avait un ethnologue qui étudiait la super Sima Aaron, qui étudiait la musique pygmée, qui est une musique en fait à ce point complexe et très difficile. Il l'a fait finalement à formaliser que elle était indéchiffrable. Et que les pygmées ne pouvaient évidemment pas aider à la formalisation, mais les critères étaient extrêmement précis, parce que si quelqu'un sortait de ce qu'est la musique, les applaudissements s'arrêtaient. Donc, le fait d'accompagner vérifiait le fait que c'était bien de la musique. Et donc, c'était une musique, en fait, dont les normes étaient indéchiffrables, mais extraordinairement contraignantes. Et ça, ça lui a servi à déchiffrer. Parce que quand il prenait la place d'un musicien, mais s'il n'avait pas compris de quoi il s'agissait, le silence répondait. Donc c'était un truc expérimentation, réussi, raté, extraordinaire, pas la moindre indulgence. Il y avait là quelque chose à déchiffrer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez occidental que ce public.
Oui, après, moi je trouve que c'est aussi une situation intéressante.
Oui, mais c'est pas un défaut. Ouais. Hein,
non, mais je réfléchis avec vous là-dessus.
Parce que c'est éteint, là, c'est fini.
Oui,
derrière
c'est
bien. Le truc.
Oui. Non, mais c'est très bien parce que, en fait, pour le moment, j'ai pris le relais ici.
Uh-huh.
Le temps de mettre le fichier ici, comme ça, je vais faire de la place sur nos dictaphones. Et.
Non, mais non. Ça m'étonne pas que nous, on n'aurait jamais pensé à faire ça en public.
Non, bien sûr. J'imagine bien.
Tandis que vous, il y a une,
nous,
y a une continuité entre la.
C'est ça. Mais ce que je voulais dire, oui, c'est qu'il y a pas mal aussi d'expérimentations, évidemment, où le public devient plus partie prenante de ce qui se produit. Où il y a évidemment une grande gamme de performances et d'œuvres interactives, où on demande au public d'assumer une fonction.
Oui, il y a beaucoup d'interactifs, pas de boutons. Hein.
Manifestement effective dans le cours de la performance, etc. Après, moi, pour ma part, je sais que je suis assez intéressé à cette situation, de ce contrat entre public-performeur, entre. Et cette. Cette politesse et ce silence du public sur laquelle on peut compter, parce que ça amène aussi à. C'est une spécificité qui est très riche aussi.
Oh, ça crée une tension différente.
Et par exemple, aussi sur la question de public-privé, on peut aussi observer que. On parlait de la prise, enfin parfois le dispositif de pensée collective tel que vous le connaissez, ça prend. Et on sent qu'il y a un collectif qui s'est formé autour de questions, de production de concepts, de réflexions. Mais c'est un phénomène qu'on peut observer aussi en situation de performance publique. C'est-à-dire, il y a des situations où, bon, il y a des gens qui ont apprécié, qui ont pu lire ce qui se passait, qui ont pu participer. Il y a des gens, non, bon, voilà, on est dans une situation un peu mitigée comme ça, où il y a des pour, il y a des contre. Et puis il y a des situations où, globalement, performeur public inclus, on sent qu'il y a quelque chose, malgré tout, de collectif qui s'est passé, qui a inclus le public, jamais tout le public, évidemment, mais où il y a eu un événement qui s'est manifesté pour, globalement, l'ensemble des participants à cet événement, public, silencieux, immobile et poliment attentif, inclus. Et je pense aussi par exemple à cet exemple, à un moment quand on travaillait le Oracle Score, qui est une performance qui est tout à fait issue de dispositif dont on a hérité. Il y a une personne qui parlait de son, qui était spectatrice, qui parlait de son expérience comme d'une espèce d'hallucination lucide. Où à un moment, elle mettait en lien ce que quelqu'un disait, ce que quelqu'un faisait, de sorte à ce que le sol qui était fait de carrelage lui paraissait être, en même temps qu'elle voyait bien que c'était du carrelage et que c'était froid, lui donner une espèce de sensation d'être du velours, doux et chaud, parce que c'est ce qu'il était question dans le récit d'une autre personne, et qu'au fur et à mesure de la performance, elle avait été amenée à s'accorder, à accorder son, pas seulement sa pensée, mais aussi son corps, en tout cas virtuel, ses sensations virtuelles, à un niveau aussi fictif, donc ce qui était dit et ce qui n'était pas présent, et à manifester ce qui était dit dans le corps d'une autre performeuse qui, elle, était en contact avec ce sol dur et froid. Et donc là, ce que ça met en lumière pour moi, c'est la plasticité de l'expérience du spectateur qui, quoique physiquement, il soit assis sur sa chaise, qu'il soit silencieux, peut être activé dans ses sensations et pas seulement dans sa tête et dans sa compréhension, et comme je peux l'être aussi en tant que spectateur sur le mode occidental d'un concert. C'est-à-dire, même si la question, c'est pas tant est-ce que je comprends la musique, sa structure, etc., c'est aussi qu'est-ce que je sens. Et je pense que l'immobilité, ça permet un certain type de sensation auquel je n'accède pas si je suis de manière plus participative en train de danser avec la musique. Enfin voilà, donc juste pour dire que ça a des ressources propres et que l'expérience qui est privée du public, il ne communique pas forcément son point de vue ou ses sensations de manière explicite. À certains moments, ces expériences privées, ça peut créer aussi du collectif, fut-il implicite.
C'est pour ça que la notion d'exposer, et notamment en philosophie, en histoire, c'est des récits, ça va, mais en philosophie, c'est spécialement caricatural parce que ça fabrique un public avec des idées qui ne devraient pas être produites comme ça. Ils devraient être produites par lecture, qui est une forme d'activité, ou par, mais pas sur le mode de l'écoute passive. Enfin, Deleuze disait, et c'est vrai que c'était lui, ça marchait, mais il concevait que ses cours étaient comme de la musique. Et c'est vrai que ça emmenait, enfin, je veux dire, mais ça c'est du grand art, mais l'exposé moyen.
Et c'est vrai que le paradoxe, c'est que Deleuze aussi, il fait un peu une distinction entre deux modes de professeurs, et que lui, en général, ses cours n'étaient pas du tout interactifs, justement.
Ah non, pas du tout. Comme la musique, effectivement. Ouais. Et ça ne l'intéressait pas du tout, les questions. Moi, je sais que comme conférencière, je suis assez mauvaise parce que. Mais que comme prof, je suis bonne parce que je prends du temps. Et je fabrique des choses souvent hétérogènes avec qui font que les étudiants peuvent se situer. Mais comme conférencière, c'est rare que je sois contente de moi.
On avait aussi, au tout début qu'on a commencé à travailler ensemble, c'était encore avant le projet dont on est en train de parler, on avait regardé ensemble une conférence de Bernard Stiegler qui se faisait, qui avait lieu après un concert de Eric M, qui est un improvisateur qui utilise les turntables, le DJ, une espèce d'improvisation. De DJ. Et il parlait de l'improvisation, donc Bernard Stiegler, lui, il comprenait sa propre pratique de conférencier comme celle d'un improvisateur, où il avait l'impression de devoir mettre en jeu des choses qu'il avait préparées, mais de les remettre en jeu dans l'improvisation, que c'était pour lui une manière qui parfois échoue, mais quand ça marche, qui permet aussi au public
qui assiste. Bah, disons qu'il faisait pas mal penser, pas nécessairement dans ce qu'il faisait, mais ce qu'il disait de la pratique d'improvisation en philosophie, ça faisait assez bien penser au cours de Verstraten, par exemple, et à la manière dont lui parlait de ses cours, bah, qui fait un peu penser à ce que tu dis des cours de Deleuze là maintenant, c'est-à-dire quelque chose d'éminemment préparé, mais où c'est sur le moment que ça doit se jouer et que ça doit, et c'est vrai que
je crois que je prépare pas assez du coup, sauf les cours, enfin les cours je me sens beaucoup plus à l'aise, mais c'est peut-être pour ça que je déteste être conférencière et je ne fais pas ça bien.
Alors moi j'ai relevé justement dans une conférence.
Deleuze aussi déteste être conférencier. Avec et votre rappel, j'en sais rien.
Je crois qu'il l'a pratiquement jamais. Ouais.
Mais néanmoins, moi je suis tombé sur une conférence à laquelle vous avez invité Bruno Latour avec Donna Haraway dans les salons.
Mais là, on n'avait pas préparé, c'était de la
première
improvisation. Ça va.
Oui.
Quand je peux improviser.
J'ai relevé à la fin, dans un échange de questions et réponses, une citation de vous qui m'avait intéressé. Toute composition n'est pas politique au sens direct du terme, mais tenter de faire de la politique sans avoir cultivé dans différents registres l'art de la composition, cela a peut-être été notre erreur. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir dit ça.
Disons que je ne me souviens pas du moment où j'ai dit, mais je peux dire que si, que j'aurais pu le signer.
Mais je trouvais ça intéressant. Hey. Ben moi, en tant que artiste, chorégraphe, je me suis fort occupé à la composition, évidemment. Et je trouvais ça intéressant, je pense que ça vient de Bruno Latour, cette idée d'amener ce terme de composition dans le registre du politique. Mais cette citation-là aussi, je la trouve intéressante, et notamment par rapport au dispositif de pensée collective, parce que, évidemment, la composition est à l'œuvre, et qu'il y a évidemment aussi une part, j'ai l'impression, d'expérimentation politique dans cette volonté de penser ensemble, penser collectivement.
Je crois que dans l'art de la composition, et on pourrait dire une propédeutique pour plein de choses, et notamment la politique. Parce que tant qu'on ne l'a pas un peu cultivé, on n'y croit pas. On est pris dans des idées de conflits moïque, etc., de vérité contre erreur, enfin tout ce qui tue une possibilité de composition. Je ne parle pas de composition entre un néolibéral et un communiste, hein. Enfin, il y a dans la politique, il y a en plus du conflit. Mais même le conflit, si on n'a pas cultivé l'art de la composition, rend bête. C'est-à-dire rend stéréotypé. Donc, apprendre l'art de la composition est une propédeutique et qui peut, quel que soit d'ailleurs le chemin, ça pourrait être les ateliers de philo ou vos ateliers, de toute façon, il y a apprentissage d'une confiance que quelque chose peut être produit, mais que ça demande une certaine discipline, un certain type de contrainte, et que quand on l'a appris quelque part, ça peut se transmettre à d'autres types de pratiques. Hein? Et que, par exemple, à ce moment-là, on se rend compte que la plupart des mœurs de confrontation ou même de discussion politique sont assez obscènes. C'est-à-dire qu'elles garantissent que rien ne va se produire. Et c'est pour ça que je dis, c'est une erreur politique, enfin ça a été notre erreur de penser que la politique c'est une affaire d'hommes debout qui disent ce qu'ils pensent et qui se contrôlent et qui débattent, etc. Un débat n'est pas une composition, un débat a quelque chose de stéréotypé. Et par exemple, si on conçoit que par exemple, on a pas mal de documentation, et ça continue d'ailleurs, sur la manière dont les Amérindiens d'Amérique du Nord font ce qu'on appelle leur pow-wow, etc. Eh bien, on peut dire que c'est leur manière de faire de la politique. Et c'est aussi un art de composition, c'est-à-dire que les humains ne sont jamais seuls réunis. L'ensemble des rites qu'allumaient, etc., sont là pour convoquer ce avec qui il faut penser, et qui sont des non-humains, des invisibles, mais dont la présence fait qu'on parlera, un peu comme dans l'ordre du monde, du palabre, que l'on parlera autrement, parce qu'on n'est pas entre humains. Donc il y a une artificialité cultivée, de contrainte cultivée, qui fait qu'on n'est jamais dans l'ordre du débat, mais dans l'ordre Nos paroles ne nous appartiennent pas véritablement. Et c'est pour cela qu'elles peuvent se composer alors que nous ne savons pas comment. Qu'on quitte le projet politique pour le procès processus politique.
Oui, encore une fois, parce que vous insistez, vous liez composition là au fait qu'il y ait aussi des non-humains, ça, oui. Implicitement, ça ramène aussi, encore une fois, cette question d'hétérogénéité.
Ça ramène une question que je dis toujours, on a donné à la situation le pouvoir de nous rassembler. C'est pas une situation, c'est une situation peuplée, avec mais une phrase que personne n'a dite et avec laquelle il faut penser, c'est quelque part aussi un non-humain. Parce que justement, elle n'a pas de dénonciataire qui collerait à cette phrase. Donc, effectivement, s'il y a composition entre les humains, c'est parce que ça passe aussi par des formes de rites, des formes de présence active, qui peuvent être de toutes sortes de choses, parce que c'est justement leur efficace à transformer les rapports entre humains qui est le point. C'est pas sont-ils dignes ou pas, mais moi quand je lis les trucs sur comment faisaient les Indiens, je pense que éventuellement c'est les colons américains, quand ils ont compris que, d'une manière ou d'une autre, les peuples indiens fonctionnaient sans chef, sans hiérarchie, qu'ils ont, c'est un grand mystère au XVIIIe siècle, pourquoi la démocratie, qui était une catégorie mal vue, devient un idéal. Et ça vient d'Amérique. À mon avis, ça vient d'une expérience qu'ils ont eue, que les chefs des Indiens ne sont chefs que dans la mesure, jamais une fois pour toutes. Ils sont reconnus comme tels. Donc, c'est pas du tout ce qu'ils ont essayé. Et que ça a traversé l'océan, mais en se remettant sur le mot grec de l'agora et en oubliant que chez les Indiens, c'était pas du tout de l'agora. Donc c'est redevenu vulnérable à tout ce que les Grecs avaient critiqué pour dire que la démocratie, c'était finalement pas tellement ça.
Et donc, qui serait ? Qu'est-ce qu'on pourrait nommer ce que les Grecs ont critiqué ?
Les Grecs ont Platon a été le pire, mais chez les Grecs... les effets de séduction, les effets de terreur, les effets d'influence, les effets de conformité, etc., étaient un très gros défaut dont on ne voyait pas comment tellement y remédier.
Et donc, et par contraste, dans la situation des Powow ou des...
Si on parle d'art de composition, c'est justement que l'ensemble de ces effets font partie du problème auquel l'art de composition s'adresse. On ne va pas avoir les mêmes effets de séduction si on parle en présence d'ancêtres ou des vents sacrés, de la même manière qu'on sera tenu sans que ce qu'on dit soit dicté. Être tenu sans être contraint, être tenu ou contraint sans être limité, mais c'est un peu ce que j'ai vu avec le palabre. Ça rend les gens différents. Et ça rend leurs énoncés composables. Donc, l'art de la composition, Et moi, j'aime bien, en tant que chimiste, c'est comme un peu... On pourrait dire que la chimie, c'est un art de la composition et que il faut... Ça, c'est le XVIIIe siècle. Qui le savait, puisqu'il préparait des réactions chimiques, des transformations chimiques à partir de matériaux semi-purifiés. Mais il fallait d'abord dissoudre, il fallait faire agir de l'acide pour activer les éléments. Parce que sinon, ça se mélangeait et ça... Au 19e, on ne le dit plus parce qu'on a des réactifs purs, donc ils sont tout prêts à être actifs. Ils sont des réactifs, ils ont été purifiés, on les reçoit comme tels. Mais le 18e siècle, c'était l'art d'activer au sens de désamalgamer et de, justement de rendre possible la transformation avec la menstrue, c'était les acides, ou le feu, ou l'eau. Bon, eh bien, il me semble que tous ces rites, tous ces arts de composition me renvoient à la chimie du XVIIIe siècle, où il s'agit de rendre possible sans dicter, c'est-à-dire d'activer la présence de chacun sur un mode où elle n'est plus enfermée dans ses particularités, mais susceptible d'être modifiée par l'autre, sans se perdre. Mais où des choses inattendues peuvent se produire justement parce qu'elles n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre, ce qui est bien une transformation chimique. Transformation chimique, ce qui est produit n'appartient à aucun des deux réactifs. Et seul, il ne pouvait le faire que l'un grâce à l'autre, l'un par l'autre, l'un avec l'autre. Et c'est bien ce genre de choses que j'emploie quand je parle de la déesse, du rôle de la déesse dans les rites. C'est ce qui implique que ce qui se produit dans un rite de sorcière se fait, mais pour tous ces rites, c'est... On devient ce qu'on est grâce aux autres, par les autres, avec les autres. Et pourtant, on devient ce... On ne se perd pas. On ne perd pas sa singularité. Au contraire, rend capable de ce qu'on ne pensait pas qu'elle était capable. Donc un art de composition, ce serait un art chimique, je dirais, de comment préparer et activer une situation de telle sorte que... avec les autres, par les autres et grâce aux autres, chacun devienne capable de ce qu'il n'était pas isolément dans ses amalgames d'idées, de convictions, de crèmes.
Oui, donc c'est aussi la métaphore avec la chimie du XVIIIe siècle, ça met en relief aussi que pour composer, il faut aussi décomposer parce qu'il y a toujours déjà une composition.
Mais c'est pas la même. Il faut désamalgamer. Pour composer, il faut désamalgamer, c'est-à-dire, parce que pour les chimistes, dissoudre, faire agir le feu et faire agir les acides, c'était pas encore une transformation chimique. C'était un devenir capable de ce qu'on allait associer, d'entrer en association. Donc, le désamalgame, et c'est pour ça qu'on peut apprendre l'art des désamalgames pour rendre possible des compositions qui, elles... Donc, il y a un art du désamalgame pour rendre possible des compositions qui, elles, ne peuvent pas être prévues. Donc, l'art est plutôt du côté du désamalgame pour que quelque chose se produise et pas du côté de ce qui va se produire.
Ça m'intéresse ce que vous dites par rapport à ma pratique parce que je sais que j'insiste beaucoup dans le travail sur le fait de distinguer les différentes choses que les performeurs ont à faire dans une situation donnée. On passe beaucoup de temps à distinguer ça, c'est ça, distinguer les intentions en fait. Tu peux mettre ton intention là-dedans, 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 là-dedans. Et il faut articuler ces intentions les unes aux autres, mais avant de pouvoir les articuler, il faut bien les distinguer. Donc on passe beaucoup de temps à désamalgamer les différentes intentions et attentions requises par la situation, avant de pouvoir les articuler en essayant de les articuler de sorte à maintenir leur hétérogénéité réciproque. C'est-à-dire que ça ne se réamalgame pas, mais que ça s'articule pour... créer quelque chose.
Il y a un autre mouvement du point de vue de la femme, c'est le texte d'Haraway sur son expérience de co-dressage avec sa chienne pour des sports d'agilité qui sont absolument arbitraires. Il faut que la chienne vraiment fasse des choses qu'elle ne ferait pas au doigt et à l'œil. Bien, au début, Haraway a lamentablement, elle dit, Cayenne et moi, Cayenne c'est le nom de la chienne, on a failli se rendre folles mutuellement. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle devait effectivement ne pas fonctionner sur si elle sait faire ça, elle a compris ça. Non, non, il fallait vraiment... Et là, elle a dû employer la technique béhavioriste, défaire chaque bout de performance en éléments et la prendre, et sans pitié, je veux dire, l'approximation ne vaut pas le... Elle a essayé de faire, c'est déjà très bien. Non, non, sans pitié, donc, analyser et lui apprendre séparément. Mais, et à ce moment-là, vient cet événement qui est, je crois, ce qui fait qu'il y a dressage. Cayenne, en anglais, c'est « she got it ». Et que Haraway appelle transfert d'autorité. Et à ce moment-là, Haraway doit apprendre à se mettre, quand Cayenne court, elle a juste besoin de quelques signaux qu'elle attend, qui sont ceux qui correspondent au parcours particulier qu'elle va faire. Mais pour le reste, Haraway doit surtout ne pas se mettre dans son chemin. Elle doit lui faire confiance. Donc, il y a une espèce de réintégration d'une Cayenne nouvelle dont l'effectivité est que la position d'Haraway change tout à fait. Et ça, on a aussi autrement, mais dans l'enseignement ou partout, quand tout à coup, quelqu'un à qui on devait apprendre, enfin, par rapport au qui, à qui on devait apprendre quelque chose, transmettre quelque chose, mais tout à coup, oh là, là, je peux encore intervenir, mais ça va changer complètement. C'est devenu dans ce domaine, enfin dans ce truc-là, c'est devenu quelqu'un. Tu dois avoir ça aussi parfois, même en secondaire.
En secondaire, oui, à l'aïkido, beaucoup.
Oui. Ouais. Donc c'est des événements comme ça où... Mais surtout, il faut être rigoureux au début pour que justement ce qui se produit soit pas amalgamé à des tas d'interprétations, etc. Peut-être que les arts martiaux, c'est justement... aussi ce truc où ça doit être rigoureux et pas indulgent. Mmh. C'est tant qu'elle était indulgente avec Cayenne qu'ils se rendaient folles mutuellement. Cayenne était dans les approximations et ça la rendait pas parce que ça n'avait pas de sens pourquoi de temps en temps ça marchait. De temps en temps ça marchait pas.
Et puis j'imagine que aussi Cayenne ça la rendait folle aussi parce que si elle... c'est pas satisfaisant d'être dans l'approximation.
Exactement. Ah, ça, les dresseurs disent, les chiens, il demande de la cohérence.
Ouais.
Et tout devenait incohérent.
Oui, du coup, elle se mettait à faire des efforts et à répondre à des demandes sans ça, finalement savoir pourquoi, si le but n'était pas
exactement
atteint.
Donc il y a cet événement de... C'est aussi un art de la composition, où d'abord il y a des amalgames, et puis il y a l'émergence d'une relation nouvelle. Cayenne, c'est...
Mais ça me fait penser aussi à un exemple qui vient du livre de Francesco Varela, L'expérience corporelle de l'esprit. L'incorporation de l'esprit. Non, comment c'est ?
L'inaction, ça.
Ou c'est sur l'inaction, mais le titre du livre.
L'inscription
corporelle de l'esprit. Où à un moment, dans le livre, il parle beaucoup d'intelligence artificielle. Enfin, il revient à des exemples issus de travail sur l'intelligence artificielle. Et il met deux contrastes. Il met en contraste, pardon, deux types de robots qui sont lâchés dans un environnement inconnu et où il explique que selon lui des modèles préfabriqués de ce que c'est l'environnement constituent un obstacle à l'autonomie du robot, donc dans un cas où un robot il est programmé à travers des conceptions d'environnement pensées par les humains. Et donc, il observe que des robots qui sont conçus comme ça sont beaucoup moins autonomes que des robots qui n'ont aucun modèle de l'environnement, donc qui commencent sans avoir aucune idée de ce que c'est leur environnement, mais qui ont été programmés avec des compétences d'orientation et d'apprentissage. Et donc, ils sont largués dans l'environnement et ils savent faire quelques tâches. Ils vont apprendre en fait, à combiner ces tâches. Et en combinant ces tâches, en travers leur expérience de leur environnement, petit à petit, ils créent un modèle de l'environnement. Mais il n'est pas préexistant et le modèle de l'environnement reste évolutif parce qu'il se fait en fonction de l'expérience du robot qui utilise telle et telle de ses compétences. Donc, encore une fois, c'est lié dans le sens où, plutôt que d'avoir un modèle qui unifie, ce qui semble être plus efficace, c'est de partir de compétences distinctes. Le robot sait faire ça, ça, ça et ça, mais rien ne dit comment ces choses distinctes doivent être mises en relation. C'est l'expérience même du robot qui va les mettre en relation en fonction de ses besoins et de son apprentissage.
Mais donc, ça c'est. Enfin, c'est toujours. C'est cette idée de ce deux temps désamalgamé pour qu'il y ait, pour que se produise l'événement de composition. Donc, la composition est toujours un événement et le désamalgame est un art.
Mais enfin, moi, ça me ramène à un truc que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, et puis il y a quelque chose dont on discutait hier, que je sais pas trop comment poser le problème, parce que mais je sais que c'est quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a pas mal interpellé dans les expériences de l'atelier de philo et du GEPO aussi, par rapport à cet art du désamalgame. Et tu fais référence, quand tu parles de la chimie, à justement un ingrédient là qui serait l'acide, enfin l'intervenant dans la situation.
Le 18e, c'était des
voilà.
instruments du chimiste,
Et
de l'art chimique, la menstrue, etc.
et donc dans le collectif, tu dis on dit, je crois qu'on est bien d'accord là-dessus, quoi, que ça fonctionne sur une manière non hiérarchisée, et en même temps, on sent bien qu'il y a des. C'est comme dans une meute, c'est pas hiérarchique, mais toutes les places ne s'équivalent pas. Et je me souviens de.
Simplement, n'importe qui peut occuper n'importe quelle place.
Voilà.
Il n'y a pas d'examen de passage.
Voilà, absolument. Du coup, je me souviens de tensions par rapport à ça. C'était des tensions gentilles et rigolotes. Mais par exemple, je me souviens de Jean-Michel qui ne démordait pas d'appeler les ateliers de philo les ateliers d'Isabelle, ce qui agaçait tout le monde, autant soi que les autres. Et je vois bien dans les
Quel
discussions,
Jean-Michel?
Hennebert.
Ah oui, mais lui, il s'arrangeait toujours.
Oui, évidemment. Mais voilà.
Lui, il était désamalgamé en permanence.
Et effectivement, je vois bien dans des discussions plus récentes au GECO, etc., quand tout le monde n'a pas le même poids, au sens où on dit il n'y a pas de place privilégiée aux spécialistes. L'idée de la discussion, c'est justement de désamorcer le fait qu'il y ait le spécialiste de la question qui puisse faire autorité, tout simplement, et justement qu'on fasse taire quelqu'un à coup de citation et de référence et de mots d'ordre. Et en même temps, justement, il y a cet art, encore une fois, qui est de. On ne nie pas le fait qu'il y a des gens qui en savent plus sur telle question que d'autres, mais tout l'art, c'est comment mettre ma singularité à moi au service d'un processus collectif. Et cet art, ça s'apprend, et tout le monde
Oui, mais
n'est
tout le
pas
monde.
aussi maître dans...
Oui, mais le fait que. Je crois que l'apprentissage est néanmoins collectif au sens où, comment dirais-je, il y a un certain goût qui se crée. Mais que ce sera jamais le même, par exemple. Moi, j'ai un certain style où je crois que ce style a été partie prenante dans la possibilité que ce groupe existe sur ce mode-là. Je crois que d'autres auront un autre style, mais comme il y aura une continuité dans la discontinuité, ce sera intéressant de voir ce style parce qu'ils ne pourront pas imposer. Il faudra que la continuité se réinvente, tu vois. Et l'une des choses qui, moi, m'intéresse, c'est que c'est aussi que ça a quelque chose de processuel, au sens où, par exemple, pour préparer ce truc qui est un peu une épreuve pour le GECO, puisque tout à la fois, c'est Didier Debèze et moi qui sommes les organisateurs, et qu'on veut que le GECO ait un rôle, mais on ne veut pas que ce soit le GECO qui décide tout. Donc, comment fabriquer ce truc-là? Et la proposition d'atelier que j'ai imaginée, c'était une solution. Et donc, en la proposant, comment dirais-je, je prenais un rôle très spécial. Mais je savais que cette proposition n'avait de valeur que si les autres y mordaient et sur un mode de transfert d'autorité. Oui. Donc voilà, je le propose, mais quelque part sur un mode qui est, ah ben, si vous n'en disposez pas, à ce moment-là, on fera autre chose. Mmh. et je crois que ça a réussi et que du coup, on a passé une épreuve qui était ce truc où le GECO est à la fois présent et pas sujet, mais co-sujet. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut expérimenter, mais on expérimente avec ses propres moyens, avec son propre style, avec ses propres inquiétudes et ses propres confiances. Moi, par exemple, je sais que l'une de mes capacités que d'autres n'ont pas, c'est de tendre la carotide à un certain moment, en disant, si ça part dans tous les sens comme ça, je crois qu'il vaut mieux que dire que c'était une mauvaise idée. Et du coup, le fait que je confie aux autres la responsabilité, tu peux mordre si tu veux, on abandonne tout, fait qu'il y a une reprise. Il y en a d'autres qui ont trop peur pour tendre la carotide. Mais moi, on n'en meurt pas. Hein.
c'est pas une stratégie d'aïkido aussi. Une espèce d'ouverture qui propose à l'autre d'attaquer.
Oui, sauf que... Pas quand elle le dit, elle est prête
à se laisser l'attaque atteindre son but. Ouais.
Oui, parce que ce ne sera pas grave. Le grave, ça aurait été de continuer en forçant. Donc, entre deux mots, je préfère qu'on reparte à zéro plutôt que de continuer alors que ça se passe comme ça. Quoi. Donc, c'est l'idée réussir-ratée. Il faut savoir reconnaître si c'est en train de... Si c'est comme ça, c'est peut-être... Je ne vais pas dire. C'est peut-être que c'est raté. Mmh. Donc, c'était aussi quelque chose de sérieux, réussir raté. Je crois que être sensible, c'est peut-être que c'est raté. C'est pas très grave. Mmh. Et c'est pas très grave, c'est ça l'important. Mmh. Ça ne nous juge pas, ça ne vous juge pas. Mais le processus n'a pas pris. Ok, ben, il faut chercher un autre.
Mmh. Oui, d'ailleurs, avec les ateliers, je me souviens qu'il y a des choses qu'on a abandonnées. Parce que le dernier dispositif, par exemple celui avec la narration, on avait identifié un problème. Tout tenait au point de départ, il fallait qu'il y ait un bon point de départ. Donc finalement, on se rendait compte qu'en dernier ressort, la réussite ou l'échec reposait sur la personne qui avait tout lancé au début, et donc la qualité de... Bon alors, est-ce qu'on était fatigué, est-ce qu'on avait envie de passer à autre chose, ce qui a fait qu'on n'a pas, on s'est pas donné l'énergie de trouver les bonnes contraintes qui allaient régler le problème, mais il se trouve que voilà.
C'est vrai que là, il y a eu des flops et des réussites, et c'était un peu embêtant.
Ouais.
Mais, non, ce qui est assez, comment dirais-je, l'idée, ça peut rater, c'est le propre de l'expérimentation. Et ça ne nous juge pas, il faut commencer.